Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient, Wallis Glaise. La situation à Gaza. Dans un rapport annuel publié aujourd'hui, Amnesty International déplore que le monde assiste en direct à un génocide perpétré par les forces israéliennes dans la bande de Gaza. Les précisions dans cette édition. À la catastrophe humanitaire, toujours dans la bande de Gaza, la Cour internationale de justice a ouvert hier une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. Sur le sujet, le représentant de l'État de Palestine auprès des organisations internationales, Amar Hijazi, dans ce journal. Le meurtrier de la mosquée du Gard nie avoir agi par islamophobie. Il a avoué être l'auteur du meurtre d'Abou Bakar Cissé. Face à ce drame, quelle doit être la réponse de la société? Question posée au grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, dans cette édition. Je vous le disais, dans son rapport annuel sur les droits humains dans le monde, Amnesty International a alerté sur la situation à Gaza. L'ONG dénonce un nouveau génocide commis par Israël dans ce territoire, un génocide commis en direct, précise Amnesty. Les précisions avec Loïc Barrière.
Depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le Hamas a commis des crimes terribles contre des citoyens d'Israël et pris en otage plus de 250 personnes, le monde assiste sur ses écrans à un génocide en direct. C'est ce qu'écrit la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, dans ce rapport publié mardi. Selon elle, les États ont regardé comme s'ils étaient impuissants. Israël tuait des milliers de Palestiniennes et de Palestiniens, massacrant des familles entières sur plusieurs générations et détruisant des habitations, des moyens de subsistance, des hôpitaux et des établissements scolaires. Amnesty avait déjà lancé des accusations de génocide fin 2024, accusations catégoriquement rejetées par les autorités israéliennes. L'ONG affirme aujourd'hui que ses recherches ont montré qu'Israël a perpétré des actes interdits par la Convention sur le génocide dans l'intention spécifique de détruire la population palestinienne de Gaza. Le rapport cite notamment des homicides, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de civils, des déplacements et disparitions forcées et l'imposition délibérée de conditions de vie destinées à entraîner la destruction physique de ces personnes. Agnès Callamard considère que l'année 2024 restera dans les mémoires comme celle d'une occupation militaire israélienne plus éhontée et meurtrière que jamais. Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 52 000 personnes dans la bande de Gaza, en grande majorité des civils, un bilan donné par le ministère de la Santé du territoire, des chiffres considérés comme fiables par l'ONU.
Et la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza toujours. La Cour internationale de justice a ouvert hier une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. Le représentant de l'État de Palestine auprès des organisations internationales, Amar Hijazi, estime qu'Israël utilise le blocage de l'aide humanitaire comme arme de guerre à Gaza. François-Xavier de Calonne.
La catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice a ouvert une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens. Le représentant de l'État de Palestine auprès des organisations internationales estime qu'Israël utilise le blocage de l'aide humanitaire comme arme de guerre à Gaza. Il souligne que toutes les boulangeries de Gaza soutenues par les Nations Unies ont été contraintes de fermer leurs portes et que 9 Palestiniens sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable. La famine, déjà en cours à Gaza depuis des mois, s'aggrave. Vendredi dernier, le programme alimentaire mondial de l'ONU a alerté sur l'épuisement des stocks de nourriture à l'intérieur du territoire coupé du monde. Israël, qui ne participe pas aux audiences, a immédiatement réagi et dénoncé une persécution systématique. Le ministre israélien des Affaires étrangères estime que la procédure s'inscrit dans le cadre d'une persécution et d'une délégitimation systématique d'Israël. Depuis le 2 mars dernier, Israël maintient la fermeture des principaux points de passage de Gaza, coupant l'approvisionnement en nourriture, en médicaments et en aide humanitaire. Cela entraîne une détérioration sans précédent des conditions humanitaires, selon les rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Pour le chef de l'Agence humanitaire des Nations Unies à Gaza, le blocus total et complet imposé par Israël à la bande de Gaza, qui approche de la fin de son deuxième mois, est à l'origine des souffrances infinies. Il ajoute que les jours à venir à Gaza seront critiques. La bande de Gaza est, s'inquiète-t-il, sur le point de connaître une famine à grande échelle.
Merci François-Xavier de Calonne. Et sur le terrain, les frappes israéliennes se poursuivent. La défense civile à Gaza a fait état de la mort d'au moins 40 personnes dans des raids israéliens depuis l'aube de lundi. Depuis la reprise des bombardements et des combats dans la bande de Gaza, au moins 2200 Palestiniens ont été tués, selon les chiffres du ministère de la Santé affilié au Hamas. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé de son côté sa profonde inquiétude concernant la situation en Cisjordanie lors de sa rencontre avec le Premier ministre palestinien. Mohamed Mustafa à Downing Street. En Syrie, 4 combattants druzes ont été tués lors d'affrontements nocturnes avec les forces de sécurité du régime qui avaient investi la ville de Jaramana près de Damas sur fond de tensions confessionnelles selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En France, le meurtrier de la mosquée du Gard nie avoir agi par islamophobie. Il a avoué être auteur du meurtre d'Aboubacar Cissé, ce jeune malien tué victime de plusieurs coups de couteau vendredi dernier dans la mosquée de la Grand Combe dans le Gard. Face à ce drame, quelle doit être la réponse de la société? Question posée au grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou.
Nous vivons dans un moment où il y a une forme de désinhibition, une forme de banalisation de la violence qui touche toutes les strates de notre société. Et puis, il y a un climat, je dirais, où il y a une forme d'entretien, de confusion sémantique entre immigration, islam, islamisme, terrorisme, etc. Ce qui engendre une forme de peur de l'islam et qui pourrait engendrer ce type de comportement, surtout quand il y a un problème de santé mentale qui touche beaucoup de nos concitoyens, malheureusement. Et donc effectivement, c'est un crime ignoble et inqualifiable et qui doit interpeller toute la société. On a besoin d'une paix civile, d'une parole politique et religieuse qui apaise et non pas des paroles qui attisent les crispations et le repli et l'exclusion. En effet, il y a un discours politico-médiatique, malheureusement, qui engendre indirectement un sentiment d'exclusion. Les communautés se ferment sur elles-mêmes, il y a une radicalisation des postures, il y a une simplification des discours qui ne permettent pas la nuance. Et donc il faut inscrire ce crime dans une crise profonde de notre société. Malheureusement, l'islam est devenu un marqueur sociologique d'une crise qui touche toute la société, en fait. Donc, oui, il y a le choc immédiat, mais il y a l'analyse que nous devons porter sur notre condition moderne, post-moderne, caractérisée par un excès d'émotion et un manque de rationalité.
Lorsque l'on vous écoute, on comprend que les pouvoirs publics doivent agir, selon vous, sur plusieurs leviers.
Écoutez, c'est une question d'éducation depuis l'école, depuis l'information qu'on diffuse dans les masses médias. On n'y a pas d'une approche pédagogique, de complexité. Les discours politiques également qui simplifient à outrance le fait musulman. Les religieux également, les imams, il faut qu'ils jouent leur rôle. Moi, je pense que c'est un phénomène multifactoriel et que chacun doit assumer sa part de responsabilité.
Comment avez-vous accueilli les réactions des personnalités politiques suite à ce drame, Tarek Oubrou?
Je pense que le niveau politique n'est pas à la hauteur du défi auquel notre société est confrontée, tellement c'est compliqué. Donc, oui, tout le monde est scandalisé, mais le problème n'est pas là. Comment résoudre ce problème-là? Comment éviter le pire? Parce que peut-être que le pire est devant nous. Nous sommes presque dans une forme de guerre civile froide. Et donc, il y a le traitement symptomatique, c'est-à-dire le côté sécuritaire, mais il y a le traitement étiologique, c'est-à-dire la question l'éducation. Il faut que le politique donne vraiment un projet dans lequel toutes les composantes de notre société peuvent se reconnaître.
Vous êtes le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou. Ressentez-vous une inquiétude grandissante de la part des fidèles aujourd'hui, des fidèles musulmans ?
Oui, il y a de plus en plus de peur chez les musulmans, comme les concitoyens, leurs concitoyens. Oui, il y a une crainte, il y a une peur de beaucoup de musulmans. Il y a une forme d'exclusion dont beaucoup de musulmans souffrent. Même les plus intégrés, même les plus assimilés. Et donc, c'est devenu l'islamisme aujourd'hui est devenu un fantôme qu'on traque partout et on confond l'islamisme avec l'islam, avec la pratique religieuse, avec l'intégrisme. Et tout ceci crée un malaise dans la société et chez beaucoup de musulmans qui pourtant sont très intégrés dans la société. Donc, effectivement, il y a un climat qui n'est pas favorable à la sérénité. Donc, et malheureusement, un certain discours politique attise les crispations, malheureusement. Mais je pense que le discours politique n'est pas toujours à la hauteur du défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
C'était le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, au micro de François-Xavier de Calonne. Il débutera le 7 mai prochain. La date du conclave qui élira le successeur du pape François a été enfin fixée. Une annonce après une nouvelle congrégation générale, François-Xavier de Calonne.
Oui, une congrégation générale, c'est une réunion préparatoire privée. Une réunion à laquelle ont pris part 180 cardinaux, dont plus de 100 cardinaux électeurs. Il s'agit d'échanger sur le profil du futur pape et les priorités pour l'avenir de l'Église catholique. Le mercredi 7 mai au matin, les cardinaux prendront part à une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Les cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans se réuniront ensuite dans la chapelle Sixtine au cours de l'après-midi. Ce scrutin à huis clos peut durer plusieurs jours. Il se tient dans le plus grand secret. Il prévoit ensuite 4 votes par jour, 2 le matin, 2 l'après-midi. Les musées du Vatican ont annoncé la fermeture de la chapelle Sixtine pour les besoins des préparatifs. Ils incluent l'aménagement de tables et de chaises ainsi que l'installation d'une cheminée sur le toit. Elle émet une fumée noire si aucun pape n'a été élu, une fumée blanche en cas d'élection. Les 2/3 des voix des votants sont nécessaires. Le nom du chef des plus de 1,4 milliard de catholiques sera annoncé urbi et orbi à l'issue du conclave.
Merci François-Xavier de Calonne. Dans le reste de l'actualité internationale, en Espagne et au Portugal, train à l'arrêt, métro fermé, trafic routier paralysé, vol annulé, communication partiellement coupée. La péninsule ibérique a subi notamment une coupure inédite hier peu après-midi. Ses causes n'ont pas encore été établi. La réforme contre le narcotrafic en France a été adoptée à l'unanimité au Sénat devant un vote définitif prévu ce mardi à l'Assemblée nationale. Ce texte transpartisan porté par les sénateurs Étienne Blanc des Républicains ou encore Jérôme Durin du Parti Socialiste vise à renforcer la lutte contre les réseaux criminels. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Oui, Wallis, parmi les mesures phares, la création d'un parquet national anticriminalité organisée qui sera opérationnel dès 2026 pour centraliser les enquêtes les plus complexes. La loi prévoit également des quartiers carcéraux ultra sécurisés, inspirés du modèle anti-mafia italien, avec un isolement strict des trafiquants dangereux, des fouilles systématiques et un accès limité aux communications. Le texte introduit aussi un dossier coffre, dispositif controversé qui permet de protéger certaines techniques d'enquête en les dissimulant aux avocats de la défense. Par ailleurs, une expérimentation du renseignement algorithmique est prévue pour analyser les flux financiers illicites et détecter les menaces. Sur le plan politique, la loi a recueilli un large consensus au Sénat, seuls les écologistes s'étant abstenus. En revanche, la France insoumise, opposée au texte qu'elle juge attentatoire aux libertés, menace de saisir le Conseil constitutionnel après son adoption définitive. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé que cette loi ferait extrêmement mal aux narcotrafiquants, tandis que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, y voit un avant et un après dans la lutte anti-drogue. Le vote final à l'Assemblée nationale est attendu ce mardi après-midi.
Merci beaucoup, Salma Darlaoui, pour toutes ces précisions. Enfin, nous allons clôturer ce journal par une page sport. Choc au sommet. En Ligue des Champions, ce soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Londres pour défier Arsenal en demi-finale de la compétition. Match aller, apporté par une nouvelle génération ambitieuse, Paris rêve enfin de décrocher sa première étoile. Place aux enjeux de ce match avec le journaliste sportif Flavien Boris, journaliste à Canal+ Sport.
Alors, quels enjeux? Déjà, une qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Et ça, c'est très important pour les deux équipes. Arsenal parce que il n'y a jamais eu de victoire de toute l'histoire du club en Ligue des Champions. C'est l'occasion aussi pour Mikel Arteta de frapper un grand coup. Lui qui a développé un style Arsenal, mais on attend toujours une victoire des Gunners. Alors c'est pas pour la Première Ligue, mais je pense qu'une victoire en Ligue des Champions aurait vraiment un impact également symbolique, parce que on va dire qu'Arsenal, c'est les éternels losers. Donc ce serait vraiment une belle chose pour eux. Et puis pour Paris, que dire? La Ligue des Champions, c'est ce pourquoi le club court depuis toujours. C'est l'année où, théoriquement, on les attendait le moins. Mais c'est l'année où Luis Enrique propose, je pense, le plus beau football que le Paris Saint-Germain ait connu sous l'ère qatari. Les enjeux, c'est simplement l'occasion pour chacun des clubs de marquer l'histoire.
C'est une rencontre au sommet qui est attendue, mais alors qui peut être le joueur impactant, ou un peu comme le facteur X?
C'est difficile de dire quel joueur va être le plus impactant, dans le sens où ce sont avant tout les deux collectifs qui, je pense, vont être décisifs. C'est notamment de plus en plus le cas dans le football moderne. Alors oui, on peut isoler peut-être Saka d'un côté et Dembélé de l'autre, mais moi je vois plus une grosse bataille en milieu de terrain. Je pense que ça va jouer au milieu de terrain. Paris a réussi à développer une certaine alchimie. Qui va avoir le ballon? Arsenal va-t-il réussir justement à faire déjouer Paris? Je pense que c'est vraiment au milieu de terrain que ça va se jouer.
Voyez-vous une équipe plus favorite que l'autre?
Difficile de désigner un favori. Très difficile. Comme ça, je dirais le Paris Saint-Germain, mais ça se joue à peu. Je crois que c'est... deux équipes de très haut niveau qui méritent d'être là avec des collectifs solides. Voilà, je mettrai une petite pièce sur le Paris Saint-Germain, mais ça va tellement se jouer sur des détails, sur le mental, sur la bataille au milieu de terrain. Je dirais que c'est un match très équilibré avant tout.
C'était Flavien Boris au micro d'Arthur Claude Savoie. C'est malheureusement la fin de notre édition, mais rassurez-vous, on se retrouve à 15h. Mais aussi à 17h. Bonne suite des programmes sur Radio Orient.